Et oui, chers auditeurs, c'est l'heure de votre émission tant attendue, bien sûr, La Bougeotte, présentée par notre baroudeur Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Bon, alors une nouveauté dans cette émission. Oui. Sur la vidéo, Pramp, tu indiques le nom du lieu que nous regardons, et sans compter aussi bien sûr la belle musique de fond dynamisant l'ensemble. C'est quoi ces nouvelles vidéos?
Oui, c'est effectivement, j'ai fait une petite modification à la demande de plusieurs personnes qui me contactent. Et c'est une demande qui n'est pas de maintenant, ça fait longtemps qu'on me le disait, puis je ne voulais pas, parce que je me disais, si les gens veulent savoir, ils n'ont qu'à m'écrire. Faut pas mâcher tout le travail. Et puis bon, finalement, je me suis résolu à écrire donc les lieux traversés en images que l'on voit. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme ça, vous n'avez pas à chercher.
Disons d'entrée, après on peut faire des recherches, mais, voilà. Mais c'est pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal,
oui, c'est
pas mal.
C'est voilà. Vrai, bon.
Ah, ouais, ça donne... Continue sur la lancée pour les prochaines années.
D'accord, oui. Ouais.
Bon, maintenant, tu nous amènes vers...
L'émission, je l'ai appelée So Nice, un petit jeu de mots avec Nice.
Oui.
Si beau, si... Voilà. Et donc je vous amène dans le comté de Nice, qui n'a jamais été comté en réalité, mais bon, plus précisément dans sa partie orientale. On va traverser d'est en ouest la vallée de la Roya. J'entends qui dit « qu'est-ce que c'est ça ?»
Oui, qu'est-ce que c'est? On est où là?
On est où là? La Vésubie et ensuite la vallée du Var.
L'ordre est là, c'est tout ce qu'on va développer.
Voilà, exactement.
Alors
on va commencer par la Roya, mais je vais vous l'expliquer. Alors la Roya, c'est un petit fleuve qui fait 60 km, qui longe la frontière italienne côté français, depuis le col, qui s'appelle le col de Tente, qui sépare de l'Italie, et qui finit par se franchir la frontière à quelques kilomètres de Vintimille, pour se jeter en Méditerranée à Vintimille. Alors à pied, toute cette région de la vallée, on peut le faire par le sentier des villages perchés, parce que tous les villages pratiquement sont perchés sur des pitons. Et puis ben, nous, on va le faire en auto, parce que l'objectif aussi, le leitmotiv, le fil rouge de cette émission, l'idée que j'avais, c'était de suivre la route du baroque, qu'on appelle le baroque Nice-Ligure, entre Nice et la Ligurie. La Ligurie qui est une région de l'Italie. Et c'est une voie historique de communication qui suit l'ancienne route du sel entre Méditerranée et Piémont. Ce qui nous amène aux routes du sel en général. Et donc c'est les routes du sel, le nom donné à toutes ces routes d'échange par lesquelles le sel était transporté depuis la préhistoire et vers celles et les régions qui n'en avaient pas. Il faut s'imaginer l'importance qu'avait cet or blanc. Les soldats romains d'ailleurs, c'était à l'époque romaine, recevaient une partie de leur solde, le salarium, c'est que devenu salaire. Voilà. Imaginons ces caravanes de mules chargées de sel, nécessaires à la conservation des aliments, au salage des pots, et qui vont suivront le long de ces caravanes qui suivront le long de ces sentiers. Déjà à l'époque médiévale, des convois de radeaux chargés de bois descendaient les cours d'eau, navigables comme le Rhône, et remontaient chargés de sel. Ce commerce dura jusqu'au XIXe siècle, une activité majeure, en particulier dans le Languedoc, la Camargue et la Provence. Une source de revenus très lucrative, tant par la vente que par les taxes. Alors, octroi, gabelle, droit de passage. Les muletiers, eux, ils arrivaient à faire entre 80 et 100 km par jour. Les seigneurs imposaient les péages. À l'entrée des villes, il y avait l'octroi à payer. C'est une taxe, on va dire, municipale. Et tout au long de la route, la caravane approvisionnait les greniers à sel. C'était, on dit grenier à sel, c'était un lieu de stockage où le roi, les responsables des greniers, stockaient le sel et ajoutaient dessus la gabelle. Et il la revendait au prix fort, prix de la gabelle, imposée depuis 1342. Le chemin de fer, il a mis fin à toutes ces routes, qui ne sont plus sillonnées maintenant qu'à titre de découverte, de randonnée, souvent à cheval, ou à pied, ou en VTT aussi. À Nice, la première route du sel, elle suivait l'ancienne voie romaine depuis Vintimille et le col de Tende en suivant la vallée de la Roya. On revient à la Roya. Les comtes de Provence entretenaient cette voie qui passait par Sospel et Tende pour rejoindre Cogny derrière la frontière, derrière le col, qui appartenait de l'autre côté, c'était le comté de Savoie. Par la suite, le chemin va se modifier en fonction des alliances, en particulier la possibilité ou pas de passer par Tende, le village de Tende. Hein. Parce que souvent, le seigneur, lui, fermait le... Pour quelle raison, je ne sais pas, financière certainement, fermait le col. À partir de 1407, la route du sel, elle ne partira plus de Vintimille, mais elle partira de Nice. Mais le trajet reste compliqué, parce que la vallée du Var est trop exposée aux dangers naturels. Celle de la Roya, politiquement, elle était peu sûre. Et on évitait aussi les dangereuses gorges de la Vésubie. En 1433, un entrepreneur de Nice propose de construire, pour son compte, une route plus sûre et plus rapide, à condition de lui laisser percevoir un droit de péage. Ainsi fut fait. Dès lors, il n'y avait plus qu'un jour et demi pour rejoindre le village de Saint-Martin, de Vésubie, qui est la dernière étape avant le col frontière. Ça s'appellera la route Pagarine, de Nice à Turin, par la vallée de la Vésubie et le col de la Fenestre. Ce chantier muletier ne deviendra carrossable par la vallée de la Roya et le col de Tente qu'en 1679, après la visite à Nice de la régente de Savoie, Madame Royale, et cette route prendra le nom de route royale. Durant 6 siècles, des milliers de mulets transportaient chacun 80 kilos environ sur ce mauvais chemin des Alpes et les cols enneigés. Un périple de 225 kilomètres qui a permis d'échanger des milliers de tonnes de sel en provenance de Provence ou du Languedoc. Il était débarqué sur la plage de Nice, qui était l'unique sortie maritime du duché de Savoie, pour les salaisons et les traitements des peaux du Piémont. Au retour, les mules portaient à la descente du blé, des peaux, des draps. Environ 55 000 mulets par an passaient par là au milieu du 18e siècle. Ça a entretenu les aubergistes, toutes les professions en rapport avec les mules, maréchaux ferrants, bourreliers, ainsi de suite, une activité très importante. Alors Nice a souvent changé de souveraineté. Après une période provençale, le comté de Nice, il n'y a jamais eu de comte, mais ça, on a toujours appelé comté de Nice. Hein. Il se place sous la protection des comtes de Savoie en 1388, puis piémontais. Souvent convoité, envahi, détruit par François Ier et Louis XIV. En 1792, juste après la Révolution, la France entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Nice est prise sans combat en 1793. Un premier référendum entérine à la majorité le choix des Niçois de devenir français. Le département des Alpes-Maritimes est créé. Cependant, le combat continue dans l'arrière-pays, avec comme principe résister à l'occupant et refuser de se soumettre. Comme en Vendée à la même époque, face aux atrocités, pillages, exactions des troupes occupantes, des colonnes infernales, un mouvement de milices armées va s'opposer à l'intégration du comté de Nice, à la déchristianisation, aux réquisitions et à la levée des troupes. On les appellera les barbés, peu connus, je vais vous expliquer un peu mieux. Un mouvement résistant donc bien méconnu. Au début, ce sont des soldats réguliers. Puis, une fois démobilisés, ils désirent continuer le combat. On les considère non plus comme des soldats, mais on les considère comme des bandits. Une milice composée donc, pour les Français, ce sont des brigands, et pour les Niçois, ce sont des héros patriotes. Difficile de dire si cette lutte était une résistance politique ou du brigandage, notamment à partir de 1800. Ça fait encore débat parmi les historiens. À l'Escarène, petit village, face à l'hôtel de la Gabelle, à côté du pont, un ancien moulin juste au bout du pont héberge un musée. À l'entrée, le portrait de François Fulconis, dit l'Alain, le chef des barbés. Vous avez donc là le musée. Son village natal, l'Escarène, a élevé en son honneur une stèle et chaque année, une fête commémore ses exploits. De l'autre côté du moulin, une plaque avec une vingtaine de noms est posée en l'honneur des barbés pour leur lutte héroïque entre 1792 et 1814. Je vais vous parler de quelque chose. Le saut des Français. Alors, ce n'est pas un site de base de jump, non, c'est pas ça. À la sortie d'un village qui s'appelle Duranus, un haut lieu de résistance. Ici, la route, elle frôle un précipice de 300 mètres qui donne sur la vallée de la Vésubie. Lors de l'annexion du comté de Nice, en 1792 à 1814, les barbés, quand ils attrapaient les soldats de la République ou de l'Empire, ils avaient 3 secondes pour apprendre à voler. Voilà.
Le grand saut.
Le grand saut. Ils étaient balancés. Impressionnant. Regardez ma vidéo, rien que l'image vous fait peur. Hein. En 1815, le comté de Nice est restitué, alors qu'il avait été annexé par référendum à la France, il est restitué au royaume Piémont-Sardaigne. Finalement, le pays deviendra français en 1860 après un autre référendum. En réalité, une sorte d'arrangement politique entre Napoléon III et Emmanuel II de Savoie. Le but, c'était de réaliser l'unité de l'Italie, qui pourrait alors faire face à l'Autriche. L'Italie était en mesure à ce moment-là de s'opposer à un éventuel envahissement par l'Autriche. En cas d'attaque, la France promet son aide à l'Italie. En échange, l'Italie nous laisse le duché de Savoie et le comté de Nice. Voilà la combine. C'est pas un mauvais plan. Alors, seul le fond de la vallée et de la Roya ne seront pas annexés et resteront italiens. Ils ne deviendront français qu'en 1947. C'est pas bien vieux. Alors maintenant, je vous avais parlé de la route du baroque Nice-Ligure. On va commencer par visiter une chapelle. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Mais au début, vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Les chapelles peintes par des artistes. En premier, celle de Saint-Bernardin d'Antibes. Je ne sais pas qui l'a peinte, ce n'est pas un artiste bien connu, mais elle est très belle. C'est un véritable joyau caché en pleine ville. Elle a été restaurée récemment, en 2008. Elle a toutes ses couleurs. C'est très beau. Je vous la conseille. Elle est difficile à trouver. Elle est en plein centre d'Antibes. Le plus difficile, c'est aussi de se garer. Hein. Bien. La chapelle du château de Valoris. Elle a été choisie par Picasso pour peindre. Vous avez d'un côté la guerre, de l'autre côté la paix. Tout ça dans une chapelle en forme de demi-tonneau renversé. Si vous aimez du Picasso, voilà. Truc, c'est que interdiction de faire des photos. C'est super, d'accord. Le musée aussi, quand je suis passé, le musée était fermé. Double super. La maison peinte par Jean Goujon. Elle n'est ouverte que pendant les offices. Autrement dit, raté. La chapelle Saint-Pierre, patron des pêcheurs, à Villefranche-sur-Mer. Elle a été entièrement peinte par Cocteau, Jean Cocteau, en 1957. On ne voit que des images de Jean Marais. Mais là aussi, carton rouge. Interdiction de filmer ou de prendre des photos. Franchement, c'est nul. Ça commence à faire beaucoup. La chapelle du Rosaire. Alors là, on est à Vence. Peinte par Matisse. Enfin, plutôt peinte. Non, il a tout créé. Il a fait les plans, il a tout organisé. Et pendant 4 ans, il a travaillé à ça, que à ça. Et c'est, pour lui, c'était son véritable chef-d'œuvre final. Quoi. Il a tout élaboré. Alors, les tuiles sont blanches et bleues. Normalement, sur le carrelage de marbre, ça devrait faire des reflets extraordinaires. Pas de chance, il y a des chaises partout. Donc, le reflet, on ne l'a pas. Et puis, photo interdite. Alors là, je me suis énervé. Puis, bon, fait gentiment. Mais après palabre, bon, on nous a autorisé. Bon, finalement, nous a dit la responsable, bon, allez, je le prends sur moi. Allez, faites les photos. Donc, ça va, j'ai des vues.
Ah, c'est déjà pas mal.
Et, bon, ça, c'est le mauvais côté. Utel, la chapelle des Pignes en Blanc, de style baroque. Elle a été fermée par la mairie. Soi-disant, elle est prête à s'effondrer. C'est commode, comme ça, on n'a pas à gérer.
Dommage.
Ouh, dommage, hein. C'est pas fini. Payon, un beau village perché. Des ruelles étroites, enjambées par des arcades, bordées de maisons qui semblent empilées les unes sur les autres, de petits escaliers en calade. Et puis, la chapelle des Sept Douleurs, avec des fresques. Un petit panneau, la chapelle est fermée, la clé se trouve à l'office du tourisme. Ah, et l'office du tourisme, on y va, il était fermé, ils sont congés.
Non, mais c'est pas vrai, on va y arriver. Vive les vacances.
Bon, alors jusqu'à maintenant, on a joué de malchance. Voici enfin le bon côté. Lucéram. Alors, vous avez là la chapelle du Saint-Gras, ou encore dite du Bon Cœur. Elle est ornée de fresques qui sont du 15e siècle. Une grille pour la protéger, mais on y voit tout. Le jour, elle est bien éclairée. On peut passer la main entre la grille, on peut prendre des photos. Voilà, enfin, une chapelle à Lucéram. Et maintenant, le baroque. Alors le baroque, qu'est-ce que c'est le baroque? Eh bien c'est une explosion de foi en réaction à la réforme qui s'exprime par une vitalité artistique exubérante à la fin du XVIe et jusqu'au XVIIIe siècle. Ce style nouveau éblouissant est importé d'Italie. On l'appelle le baroque donc. Hein. C'est pour extérioriser sa foi qui est encore actuellement maintenant, encore très présente. Et ça donne une âme authentique à tout ce territoire. Les principaux ordres religieux que l'on trouve, les franciscains et les pénitents blancs. Alors, à ne pas rater, Breil-sur-Roya. Vous avez une décoration baroque, le retable, les boiseries sculptées, dorées, les stalles en noyer, des fresques de l'église Sancta Maria in Albis, et à côté de ça, la chapelle Sainte-Catherine avec les magnifiques peintures. Breil-sur-Roya. Là, c'est ouvert, gratuit. Ne plus tarder, allez à la collégiale de Notre-Dame de l'Assomption à Tende. Ça, c'est au bout de la vallée, tout en haut. Hein. Une façade trompe-l'œil, un portail monumental en pierre de la région rouge et verte, surmonté de 13 statues de saints, et à l'intérieur, tout en couleurs, c'est une halte incontournable. Le plus beau village où vous trouverez tout. La Brigue. Enfin, le plus beau village, il y en aura d'autres, mais bon. La Brigue. Il possède un riche patrimoine architectural. On découvrira les ruelles pavées, les maisons colorées, au linteau sculpté et son imposante collégiale baroque flamboyante. La Brigue, il y a pas moins de 4 chapelles. La chapelle Saint-Michel octogonale, magnifiquement décorée, elle n'est ouverte qu'en saison, il faut passer par un musée pour y aller. Bon, pas de chance, mais il y en aura d'autres. La chapelle de l'Ascension, elle est fermée pour risque d'éboulement, décidément. Mais vous avez la chapelle de l'Annonciation à côté de l'Office du Tourisme. Ils sont venus nous l'ouvrir spécialement. Elle est exceptionnelle. Il y a des fresques de toute beauté et une collection de dalmatiques. Les dalmatiques, tout le monde sait ce que c'est ? Non, pas du tout. Ce sont ces vêtements liturgiques, souvent brodés à manches courtes que mettent les prêtres. Ça y est, capito ?
Oui, ça y est.
Alors maintenant, la merveille. La merveille. Attention, écoutez bien vos oreilles. À la Brigue, Notre-Dame des Fontaines. Des fresques du 15e siècle. Du sol au plafond, plus de 200 mètres carrés, dans un état de conservation remarquable. On parle d'elle comme la chapelle Sixtine des Alpes. C'est un véritable choc. Il n'y a pas de lumière, il faut y aller quand il y a du soleil, pour qu'en laissant aux portes ouvertes, on ait un peu de clarté pour faire des images. Hein. Pas de flash, voilà. Alors, je vous ai parlé de la merveille. Maintenant, d'autres lieux. Un lieu immanquable, un village tibétain, ou presque. Saorge, ça s'appelle. Sur les contreforts du Mercantour, c'est pas une étape, c'est une destination. C'est comme un village tibétain. La construction s'est développée en amphithéâtre. C'est piéton, pas de voiture. Des maisons anciennes du 15e au 17e siècle, typiquement emboîtées et superposées les unes sur les autres. Un véritable dédale de petites ruelles qui se transforment parfois en souterrain ou en passerelle. Le plus beau point de vue de Saorge, il faut monter un petit peu au-dessus, le monastère franciscain. Au centre de ce monastère, vous avez un cloître, des cadrans solaires et de nombreuses fresques inspirées de la vie de Saint François d'Assise. Dehors, le jardin des moines avec les aqueducs et les bassins. Hein, on fait ça. Plus au nord, on change complètement. Le petit Colorado niçois. Inutile d'aller aux États-Unis et de traverser l'Atlantique pour découvrir des gorges vertigineuses en roche ocre et rouge. Parcourez-les plutôt en voiture, celle de Dalhous, où coule le Var 300 mètres plus bas, et celle de son affluent, le Sian. Elles sont uniques en France. Une symphonie de couleurs qui vont du rouge sang au lit de vin. Au fond, le ruisseau parfois ne dépasse pas 2 à 3 mètres de large. Une légende, là, dans les gorges de Dalhous, au fond de la vallée, un pont emprunté au début du 19e siècle par un petit train de chemin de fer, et qui a acquis une renommée mondiale. En 1937, un couple en voyage de noces était allé visiter les gorges de nuit. Drôle d'idée, hein ? L'homme revient tout seul, affolé, et déclare que sa femme est tombée, s'est trompée, et elle a sauté du pont dans l'obscurité. Et l'enquête a conclu par un accident. Depuis, une légende se propage, que par désespoir amoureux de n'avoir pas pu épouser l'homme qu'elle aimait, cette femme se serait jetée dans le vide, et le mystère reste entier. Aujourd'hui, ne sautent plus que les amateurs de soie élastique.
C'est déjà pas mal.
C'est heureusement. On change et je vous propose autre chose. Une histoire de pierre. Quelque chose qui va te plaire. Au col de Vence, un point de vue magnifique sur toute la côte d'Azur. Et parfois même, paraît-il, qu'on voit la Corse. Un plateau karstique qui s'appelle le plateau de Saint-Barnabé ou le plateau du Diable. Mais ce lieu est surtout connu par les observations répétées qui décrivent des événements irréels, mystérieux, défrayant la chronique. Des boules lumineuses, des perturbations magnétiques. Je te vois sourire. Il n'est pas rare de voir les voitures tomber en panne, sans raison, les accus des téléphones se vident et les appareils photos se bloquent. De curieuses traces au sol, genre crop circle, apparaissent au lever du jour. Elles restent visibles plusieurs mois. La neige, elle n'y reste pas dessus. Aucune végétation ne repousse. Certains ont vu tomber des pierres venant d'on ne sait où. Et depuis 50 ans, ici, dans cette région, les ufologues, à la recherche de phénomènes et d'objets volants inexpliqués, sont préoccupés. Il ne se passe pas un an sans l'apparition de ces phénomènes de jour comme de nuit. un lieu maudit ou sacré que vous piétinez et que vous allez ressentir au plus profond de vous-même. Enfin, personnellement, moi, j'ai rien ressenti du tout. Alors, vous avez un endroit qui s'appelle le village des idoles ou le village nègre, des rochers sculptés par l'érosion, ayant des formes particulières et qui semblent se regrouper en un ensemble de bâtiments.
Que l'on voit sur ta vidéo.
Exactement, on le voit. Une sorte de rocher encore. Les ruches éclos. Entre Tendre et la Brigue, on les appelle les maisons des abeilles. Ainsi, les ruches sont ceinturées par un mur de clôture d'environ 3 mètres de hauteur. C'est une protection contre l'intrusion des ours et des voleurs de miel ou de ruches à deux pattes.
D'accord, moi je pensais que c'était contre le vent.
Ça protège du vent, ça conserve la chaleur et les abeilles se mettent en activité beaucoup plus tôt dans la saison. Et ils avaient bien compris les anciens. Voilà, donc on y trouve, je n'en ai vu nulle part autre en France. Je n'en ai vu que là, au fin fond de la vallée de la Roya.
D'accord, et c'est d'ailleurs l'aquarelle Nadine, mais on y reviendra.
Et oui, enfin, et pour terminer, toujours des pierres, mais cette fois elles sont gravées. Les pierres gravées de la vallée des Merveilles. On en dénombre plus de 100 000 qui sont réparties sur 4 000 hectares à 2 000 mètres d'altitude environ, autour du mont Bégaud et du rocher des Merveilles. Elles datent de l'âge du cuivre ou du bronze. À noter qu'il est interdit de sortir des chemins, balisés. Un accompagnateur agréé est obligatoire pour aller les voir. Maintenant, quand vous voyez que c'est fléché telle chose et qu'il ne faut pas y aller... Alors d'un côté, le parc met en place une politique de protection pour lutter contre la surfréquentation et la dégradation. Et d'un autre côté, il autorise les accompagnateurs à circuler en 4x4 afin de conduire les clients. Un peu contradictoire avec la charte des parcs nationaux. Un peu bizarre, mais bon. À noter, à Tende, vous avez un musée qui propose une exposition remarquable d'objets et de personnages mis en scène et ayant peuplé cette vallée, ainsi que de nombreux moulages de ces gravures. Donc, si vous ne pouvez pas y aller, si vous n'avez pas le temps, moi, il faisait très mauvais, je suis allé au musée, et ça a donné une riche idée, une bonne idée.
Et on voit ça aussi sur ta vidéo.
Oui, bien sûr.
Oui, tout ce que tu dis, d'ailleurs, on le voit pratiquement sur ta vidéo.
Oui, à part le saut des Français, on ne voit que l'endroit du saut, mais...
Ah, je croyais que c'est Panadine qui a sauté. Ah, bon, d'accord.
Alors, une fois de plus, vous allez me dire... Il n'y a pas d'image VTT.
Il n'y a rien dessus.
Et non.
Et pourquoi ?
Eh bien, il a fait. Eh bien, je le dis.
Et alors ?
Ce coup-ci, c'est pas ma faute. Hein. Il est tombé, un déluge s'est abattu toute la journée. Des trombes d'eau toute la journée. Et je n'ai franchement pas regretté. Enfin, si, je l'ai regretté parce que j'aime bien ce pays, rouler en VTT sur ce village. Dommage, mais bon, là, il a vraiment, vraiment trop plu. Le mois prochain.
Et attends, bon, déjà on ne t'en voudra pas que tu n'as pas mis de vidéo ce VTT, et en plus tu ne nous as pas parlé de l'aquarelle de Nadine.
Ah, l'aquarelle de Nadine, tu l'as dit tout à l'heure, oui, elle a fait une petite aquarelle sur les ruches éclos qui sont autour de la Brigue. Ouais, voilà, elle a fait ça.
Ah, mais c'est très sympa.
C'est original parce que, oui, elle a fait ça, je l'ai choisi parce que vraiment, c'est une originalité que je n'ai vue nulle part ailleurs, ces ruchers. D'accord. Alors il y en a, certains sont dans l'état... Et d'autres ont été remis en valeur par une association, un gars de la Brigue, qui conserve ce patrimoine.
D'accord, ah, c'est bien ça. Et le mois prochain ?
Alors, le mois prochain, pour finir la trilogie sur la Première Guerre mondiale, nous avons vu dans les émissions précédentes le kilomètre zéro à la limite de l'Alsace et des Vosges. Nous avons vu le chemin des Dames et dans la région de l'Aisne. Et pour finir cette trilogie... Le mois prochain, je vous emmènerai en direction des champs de bataille autour de Verdun. Et là, dans ces terrains dévastés, j'ai fait des images de VTT en participant à une importante randonnée. Voilà donc la fin de l'émission.
Merci beaucoup Christian, donc toujours de nous amener de nouvelles vidéos et de nouveaux textes.
Et cette émission prouve une fois, comme chaque mois, prouve qu'il y a tant à découvrir dans notre pays. Et alors, en attendant, je vous dis... Comme je dis chaque fois, mais vraiment avec beaucoup d'insistance, bougez en France.
Merci Christian.
Merci Francis.